Instant X.
You're a witch!
He's a witch too, you know.
You're a wizard, Harry.
Ça y est, je vais enfin m'attaquer à ce sujet qui me trotte depuis bien longtemps dans la tête, voire je crois depuis le jour où vous m'avez proposé de faire des chroniques avec vous, Anthony. Donc maintenant que je suis bien installée dans l'émission, je suis un personnage un peu récurrent, vous m'accordez toujours un petit peu plus de temps pour raconter mes histoires. Je vais enfin parler des liens qui existent entre sorcellerie et musique. Et je vous préviens, je ne me suis pas privée, je vais partir dans tous les sens tant le sujet est vaste. Cette chronique devait durer initialement 4h30, mais j'ai dû me restreindre, donc allons-y les amis.
C'est votre Avatar 2 quoi.
Ouais, c'est un peu ça, ouais. On va commencer par le commencement, et au commencement était le Verbe, c'est ce que disait Saint Jean dans son évangile. Et le type avait plutôt vu juste, puisque les origines de la musique sont datées aux environs de la préhistoire, donc c'était il y a 3 millions d'années. Et parce qu'on n'a pas encore trouvé de traces plus anciennes d'instruments de musique, on suppose que le premier instrument utilisé par les êtres humains a été la voix. Tout comme pour les religions dont la naissance est intrinsèquement liée à l'être humain, la musique existe donc depuis toujours, entre guillemets. Et évidemment, depuis toujours, on a mélangé musique et religion pour se rapprocher des dieux. Qu'il s'agisse de raconter leurs histoires en chant ou en poème, de se rapprocher spirituellement et physiquement d'eux en pratiquant la transe induite par certains rythmes et certains sons, ou pour s'adresser directement à elles ou à eux en utilisant des prières chantées, on accorde à la musique un espèce de pouvoir magique, celui de mieux se faire entendre des entités divines à qui l'on souhaite s'adresser, voire de communiquer directement avec elles. Si vous avez déjà assisté à une messe, vous connaissez le concept, et on retrouve plus ou moins la même chose dans les grandes religions monothéistes actuelles en tout cas, où on utilise la forme de récitation scandée, modulée ou chantée lors de prières ou de cérémonies. C'est une utilisation de musique dans les pratiques spirituelles et magiques qui existe dans de nombreuses religions et de nombreuses civilisations autour du globe. Je vous ai déniché par exemple un premier extrait qui nous vient du Kenya, qui a été enregistré dans les années 70. C'est un chant qui est pratiqué pendant des séances thérapeutiques déclenchant la possession. Vous allez voir dans le morceau, c'est marqué par des formules polyrythmiques qui viennent de plusieurs instruments à percussion. Et c'est insistant, c'est jusqu'à l'obsession, ça forme des spirales musicales et ça facilite l'entrée dans la transe de guérison. Alors c'est un extrait d'un morceau qui a été publié sur une série qui s'appelle Explorer Series, d'une maison de disques qui s'appelle Nonesuch. C'est un chant d'un docteur sorcier d'une population d'Afrique de l'Est qui s'appelle les Pokots et qui vivent à l'ouest du Kenya et en Ouganda. Et c'est en cela qu'on voit que la musique a quelque chose de magique, puisqu'elle facilite donc l'entrée en transe. La transe, c'était cet état d'exaltation, quand on est transporté hors de soi-même, hors du monde réel. Ou alors, ça peut aussi être un état modifié de conscience, par exemple dans lequel entrent les médiums quand ils communiquent avec les esprits. Et que l'on utilise seulement la voix ou qu'on lui ajoute du rythme et des mélodies, la musique permet d'atteindre un état de conscience modifié. C'est un état qui est cher par exemple aux pratiquants et aux pratiquantes de magie du chaos, mais pas que, puisque c'est le même principe que l'on va retrouver dans les mantras bouddhistes ou plus récemment dans l'utilisation des battements binauraux pour accompagner la méditation ou la pratique magique. « Là, ce qu'on est en train d'entendre, c'est un extrait d'un mantra bouddhiste, le fameux Om. Et dans le bouddhisme, le mantra, c'est une formule sacrée qui sert à protéger son esprit lors de la méditation. C'est composé d'une ou plusieurs syllabes qui sont répétées en boucle. Et la puissance des mantras vient pas forcément de leur signification, mais plutôt des effets vibratoires créés par chaque syllabe quand elles sont prononcées de façon répétée. On les utilise en fait dans la répétition, et on utilise même parfois une sorte de chapelet qui s'appelle un mala, qui est composé de 108 perles, et il permet d'aider la personne qui les récite à en faire des séries de 108 répétitions comme ça pour entrer dans un état de méditation plus intense et de ne pas être distrait par leurs pensées habituelles. Il y a même des études scientifiques qui ont prouvé récemment que psalmodier des mantras, ça réduisait l'anxiété, les symptômes dépressifs, et en même temps que ça induisait un état de relaxation et de bonne humeur. Et les mantras aident donc aussi à résister au stress. Et il y a une étude qui est parue dans l'American Journal of Psychiatry qui a montré que la répétition silencieuse d'un mantra améliorait même les symptômes de stress post-traumatique chez des vétérans de guerre. Il y a un véritable effet sur le physique autant que sur l'esprit. Là maintenant, on va parler des battements binauraux. Donc c'est une autre forme de musique bizarre que j'aime beaucoup. Ce sont des sons qui vont avoir un effet sur le mental et sur le physique, et qui vont permettre d'atteindre aussi des états de conscience modifiés en fonction des fréquences qui sont utilisées. Là, pour le coup, en revanche, il n'y a pas d'influence sur les ondes cérébrales, la relaxation ou la santé qui a été prouvée scientifiquement. Il n'y a pas encore assez d'études sur le sujet, et puis c'est assez contradictoire dans les résultats.
De toute façon, là, ce soir, on ne parle pas tout à fait de
non, on ne va pas parler science, on n'est pas dans la science dure, on est spirituel.
On est plutôt sur un rapport de la musique qui visiblement ouvre
à autre chose. Exactement. Là, le battement binaural, c'est un son que le cerveau va percevoir comme des pulsations de basse fréquence. Lorsqu'il y a deux sons de fréquences légèrement différentes qui sont présentés indépendamment à chaque oreille du sujet. Donc en général, on écoute ça au casque en stéréo, et ça va provoquer une espèce d'altération un peu de la réalité de l'esprit.
Je crois que de toute façon, c'est une chronique à écouter au casque.
Ouais, il faut écouter ça au casque. Donc là, on va écouter un petit exemple de battement binaural. Je vous prie d'écouter avec ça votre meilleur casque stéréo. Ça va, vous avez voyagé un peu.
Martin a les yeux révulsés.
Voilà, il est en train de léviter.
Et moi, en effet, je suis à 10 cm au-dessus de mon siège.
C'est complètement. Alors, c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être assez oppressant comme genre de son, parce que c'est assez particulier. On écoute ça en général pendant plusieurs heures pour se relaxer ou méditer ou des choses comme ça. Donc, on en trouve là maintenant des centaines et des centaines sur les plateformes de musique, de vidéos. Moi, personnellement, j'en ai écouté pas mal pendant un temps. J'ai pas eu l'impression de passer dans un état de conscience modifié ou quoi, mais j'ai parfois eu une sensation d'apaisement proche un peu de ce qu'on peut ressentir pendant une séance d'hypnose un peu. Vous voyez un peu le genre, l'espèce de relâchement. Et bien sûr, on peut utiliser ce genre de son pour la relaxation, pour la concentration, et ça peut servir de base pour de nombreuses pratiques sorcières comme la Wicca. Puisque dans la Wicca, dans le livre de Scott Cunningham, qui s'appelle La Wicca, il consacre tout un chapitre à la musique, la danse et la gestuelle pour activer les forces, modifier la conscience et s'unir avec la déesse et le dieu dans les rituels. Il rappelle d'ailleurs que la musique et la danse ont fait partie des premiers gestes magiques et religieux, et il affirme que la musique et la danse favorisent notre investissement émotif dans les rites wiccans. Donc je vais vous lire un petit extrait de ce livre où il parle de musique. Alors, il nous dit « De nos jours, la musique peut certainement faire partie des travaux wiccans. Vous pourriez simplement trouver des pièces appropriées choisies dans le répertoire classique, ethnique, folklorique ou contemporain et les faire jouer durant les rituels. Les adeptes à la fibre musicale pourront créer de la musique qui sera jouée avant, durant ou après le rituel. On peut se servir des interludes musicaux juste avant le rituel pour créer l'atmosphère, durant celui-ci en offrande à la déesse et aux dieux, ou pour activer l'énergie, et après simplement pour le plaisir de la célébration. » Certains adeptes composent même une chanson qui est en fait un rite et incorpore tout au rituel de la création de l'espace sacré et de l'invocation des divinités au remerciement pour la présence. La magie avec la musique est véritablement ce que vous décidez d'en faire. Cunningham, ensuite, il explique que certains instruments sont dotés de pouvoirs spécifiques. Par exemple, les percussions sont rattachées à l'élément terre et sont recommandées pour invoquer la fertilité, l'argent, décrocher un emploi. Mmh. Les instruments à vent, les flûtes, les petits pipeaux, ce genre de choses sont régis par l'élément air, élément de l'intellect, vont plutôt servir pour accroître les pouvoirs mentaux, les capacités de visualisation ou faire appel aux dieux. Les instruments à cordes, c'est gouverné par le feu, sont indiqués pour les sortilèges et les rites portant sur la sexualité, la santé, la force physique, la passion. On comprend mieux pourquoi ce mec un peu bof chopait toutes les filles avec ses trois accords de Wonderwall à la guitare. Et enfin, les instruments métalliques, donc les cymbales, les gongs, les cloches, eux qui sont rattachés à l'élément eau, englobent tout ce qui va concerner la guérison, l'amitié ou encore la compassion.
Je peux vous interrompre un
Interrompez-moi,
instant.
Interrompez-moi, allez-y.
Martin, qui ici écoute de la musique toute la journée, fait des choix pour la playlist de Balistique, j'avais envie d'avoir votre avis là-dessus. Alors, non pas directement, est-ce que la musique influe sur tel ou tel aspect de votre vie, mais est-ce que vous sentez, suivant les genres que vous écoutez à telle ou telle période ou les après-midi entiers consacrés à ça, est-ce qu'il y a déjà quelque chose comme ça qui se joue?
Alors oui, toujours ouais, hein, en soi, ouais. Parce que moi par exemple, je prends l'exemple de la voiture, parce que c'est là où je vais écouter souvent le plus de musique, parce que je fais beaucoup de voitures, que ce soit matin, soir, en rentrant de balistique. Mmh. Et c'est vrai que parfois on va écouter de la musique un peu plus calme, il va faire un peu sombre, on va être dans la voiture, on va écouter ça le plus calmement possible, et dès qu'on va partir sur des musiques qui vont accélérer un peu, qui vont partir, on a presque envie aussi d'appuyer un peu plus sur l'accélérateur. Mais bon... On se calme quand même.
Non, mais voilà,
je suis très sensible à la différence sur les instruments, moi.
Ouais, qui peuvent avoir, je pense, un impact. Là, pour le coup, c'est sur certains sujets de sort ou de sortilège.
Mais
il y a aussi beaucoup d'impact. Moi, je pense que c'est le rythme aussi beaucoup qui joue là-dessus.
Et puis quelque chose d'émotionnel.
Tout à fait. Scott Cunningham, toujours dans son même livre, disait qu'il existait de nombreux morceaux wiccans et païens, et on parle même aujourd'hui d'un style néo-pagan, une sorte de cousine sorcière de la folk.
D'accord.
Et il existe des centaines et des centaines d'artistes connus et reconnus dans le genre, et j'ai eu envie de vous passer deux extraits, voici le premier. Alors là, on vient d'entendre un extrait d'un morceau d'un groupe qui s'appelle Incubus Succubus. Le morceau s'appelle Witch's Chant. Dans cet extrait, on retrouve l'utilisation de la psalmodie. Les paroles énumèrent les noms de déesses, donc Isis, Astarté, Diane, Hécate, Déméter, Kali et Inanna. Et ce sont toutes des divinités féminines de différentes cultures qui représentent chacune à leur manière l'amour, le sexe, la guerre et la chasse, donc des femmes très très fortes. Et il y a des mélodies qui sont vocalisées, qui sont ajoutées par-dessus cette psalmodie qui donne une espèce de puissance supplémentaire à ce chant, et voire même un côté sacré. Moi, ça me fait penser, je ne sais pas si vous vous souvenez des morceaux que j'avais passés dans la chronique sur les sorcières d'Aquelarre,
le film
basque,
espagnol,
ouais, sur la chasse aux sorcières dans le Pays basque, ouais. où on avait choisi un morceau où les jeunes femmes répétaient la même phrase en modifiant la mélodie et les voix pendant leur scène de sabbat, et ça avait une puissance extraordinaire. Ouais. Là, ce morceau, c'était un tout petit extrait. Le morceau, en fait, il part d'un murmure, il va monter crescendo avec l'ajout de mélodies et de voix, comme ça, pour redescendre et terminer dans un murmure. Il est vraiment très, très beau.
Un chant néo-pagan comme celui-là, il sera plutôt utilisé pour le plaisir de l'écoute.
Oui, là, dans ces cas-là, c'est plus utilisé pour le plaisir de l'écoute. Oui, tout à fait. Après, il peut dans sa valeur incantatoire, on va dire, être utilisé aussi un peu comme une forme de prière, presque comme un mantra aussi, vu qu'il est dans la répétition, dans la boucle, et qui peut aussi induire cet état de concentration, de focus, quoi. Là, ce qui est drôle, entre guillemets, c'est que le groupe Incubus Succubus, c'est un groupe britannique de musique gothique qui a été fondé à la fin des années 80 et qui a incarné un peu la transition entre le goth old school des années 80 et ce qui s'appelle le Heavenly Voices, qui a été plus développé dans les années 2000. Donc c'est plus atmosphérique, il y a plus de belles voix féminines, assez éthérées, assez féeriques. Beaucoup de fans considèrent que la chanteuse de ce groupe, qui s'appelle Candia, a un charisme énorme et qu'elle incarne la grande prêtresse païenne. Donc on va continuer avec une autre prêtresse païenne dans l'extrait suivant.
Dark sun night and shining moon, balance of the dark and light, hearken ye, O witches' rune, as we perform our sacred rite. By earth and water, air and fire, by blade and bowl and circle round, we come to you with our desire. Let all that is hidden now be found.
Ici, il s'agit de S.G. Tucker qui nous chante Witch's Rune. S.G. Tucker.
Alors là, on a vraiment l'impression de rejoindre quelque chose de beaucoup plus, enfin un morceau, quoi, un bon vieux morceau.
C'est
à la
complètement,
guitare, voix,
complètement. S.G. Tucker, c'est une chanteuse américaine qui est 100% dans la vibe néo-païenne. Elle a des morceaux avec des bases folk à fond, guitare acoustique, voix, un petit peu de percussion qu'elle fait avec une pédale et tout ça. Elle a des mélodies qui sont toujours très belles, très efficaces. C'est très très doux. C'est le genre de morceau qu'on a envie d'écouter un peu au coin du feu, dans un pique-nique en forêt, peut-être avant une cérémonie ou un rituel. Moi, je trouve que ça installe cette petite ambiance-là comme ça. Ça a quelque chose de très, très fée dans mon imaginaire. Après, il y a d'autres styles de païens et évidemment, comment ne pas parler des adorateurs de Satan. Je mets plein de guillemets autour pour parler de nos amis les métalleux. Bisous les métalleux, je vous adore. Le métal qui est le style musical subversif par excellence, qui a toujours flirté avec le monde de l'ésotérisme dès ses débuts avec Black Sabbath, hein, par exemple, qui est un des pères fondateurs du genre. C'était évident que les groupes allaient se frotter au folklore viking souvent, à la sorcellerie ou à d'autres formes de pratiques magique et ésotérique. Par exemple, dans le black metal, dont un des groupes fondateurs est Bathory, on est très branché mythe nordique et scandinave. Et puis après, il y a d'autres groupes qui ont été plus vers le satanisme ou les histoires de vampires. Dans un article qui est dans une revue qui s'appelle Société, on nous parle du black metal en nous expliquant que ça se présente comme un phénomène culturel où musique et spiritualité ne peuvent être dissociées. En filigrane, on observe une dénonciation de ce que les artistes perçoivent comme les excès du christianisme. Il parle après du pagan metal, donc le metal païen, qui voit le jour en Scandinavie au début des années 90, avant de se diffuser au-delà, et qui puise ses sources d'inspiration dans la mythologie nordique. Au sein de cet univers, pour renforcer leur message, les artistes utilisent des symboles issus des mythologies locales. On retrouve dans le pagan metal une volonté similaire de faire rejaillir des références issues des mythes nordiques et scandinaves avec un concept de retour à la nature et de rejet de la modernité. Ça, c'était un peu pour la vision analytique du phénomène. Ah oui. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, évidemment.
Voilà.
Ce que je veux souligner surtout, c'est qu'il y a de l'interférence de la sorcellerie, des mythes anciens, des croyances païennes dans la musique moderne, et qui plus est dans un style de musique entre guillemets sombre et assez violent, et qui contraste énormément avec la folk néo-païenne qu'on a écoutée juste avant. C'est comme une sorcière à deux visages, en fait. Il y a un visage un peu plus sombre, un visage un peu plus lumineux. Et les représentations sont finalement pas si éloignées de la réalité. Et on les retrouve aussi dans la musique. Moi, je trouve que le pagan metal a un côté un petit peu plus folklorique et moins brûlons les églises que le black metal. Mais c'est très personnel. Et j'ai pour cela, bien évidemment, un extrait d'un groupe qui s'appelle Fintroll, qu'on aurait presque pu entendre à Saint-Chartier si la prog avait été un petit peu plus électrique.
Thank you.
c'est Finn Troll, donc avec un morceau qui s'appelle Troll Amaren, qui est issu, alors pardon pour l'accent finlandais à couper au couteau, qui est issu de leur quatrième album qui s'appelle Nattfeud, qui veut dire né dans la nuit. je sais que c'est pas votre soupe, hein,
mais c'est
un voyage. Voilà, je vous emmène en voyage aujourd'hui et je vous fais voyager à travers
comme
le monde.
Non. Voilà. Alors là, vraiment.
Bon, ce que je voulais vous dire surtout, c'est que la sorcellerie et la musique sont unies comme les cinq branches du pentacle. Et on le voit avec tous les extraits qu'on a eus jusqu'à présent. Mais, et la figure de la sorcière dans tout ça, me diriez-vous, Anthony, car je vous connais si bien désormais.
Si j'avais des relances,
voilà,
mes yeux,
vous m'auriez dit ça. Mais je ne vous donne pas de relance parce que je veux monopoliser le micro, c'est ma chronique. Eh bien, sachez que je ne l'oublie pas, ma sorcière, jamais je ne l'oublierai, qu'elle soit sujet ou créatrice. La sorcière, comme sa magie, est une figure incontournable de la musique, et ce, dans tous les styles. Eh bien, on va entendre ça tout de suite avec un premier extrait.
Qu'ai-je fait? Où sont-ils? Où sont-ils? Mon œil ne les voit plus. Pour le fils des jeunes hommes, sans se sont
dans la musique classique, évidemment, à l'opéra, la sorcière, elle est là, elle est toujours là. Elle est parfois au centre de l'intrigue.
C'est Médée.
Oui, c'est Médée.
C'est
on retrouve souvent donc les sorcières de l'Antiquité, des personnages issus de la mythologie, dotés de pouvoirs magiques, qui peuvent faire autant le bien que le mal. Et là, la plus célèbre, effectivement, c'est Médée. C'est un extrait du Médée de Cherubini, qui était interprété par Sabrina Cirera en 2016 à Buenos Aires. Voilà, je tiens à rendre hommage à cette chanteuse. Il y a un autre exemple aussi qui est assez connu, c'est dans La nuit de Walpurgis de Mendelssohn, qui raconte les célébrations païennes des sorciers et sorcières à la veille de la Sainte Walburge, une religieuse anglaise qui avait fait de nombreuses guérisons miraculeuses. Ça, c'était pour la partie musique classique. Je vais sauter quelques petites décennies. Et plus récemment, on a retrouvé quand même pas mal de sorcières dans la musique des années 50 à 70,
oui,
avec des artistes comme Donovan et son Season of the Witch. On a Screaming Jay Hawkins avec I Put a Spell on You.
Ah oui,
et
oui,
bien sûr, on a Carlos Santana et sa Black Magic Woman.
Got a black magic woman. Got a black magic woman. I've got a black magic woman, got me so blind I can't see. That she's a black magic woman, she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic sticks.
Carlos Santana, où on est en plein milieu de l'instant X ce soir avec vraiment alors un voyage avec Hélène. L'émission, vous écoutez le Balistique Café sur Radio Balistique. L'émission est réalisée ce soir par Martin. 103 pour l'AFM, balistique.fr pour le player et les podcasts. L'instant X continue. Après, il y aura un Nobody's Perfect. On continue cette balade musicale assez incroyable. On a fait le Kenya. On a fait.
On est parti dans la musique classique. Oui. On est parti dans la méditation bouddhique.
On a fait du Rome.
On a fait plein de trucs. Santana. Là, on vient faire Carlos Santana.
Et passer peut-être, pourquoi pas, Nina Simone. I put a spell on you. C'est une sorcière formidable.
J'aurais pu. En même temps, j'ai dû faire des choix pour cette chronique et qui n'ont pas été faciles.
Oui.
Vraiment. Là, par exemple, on vient de passer Black Magic Woman de Santana parce que c'est pour moi un incontournable. Mais il est une sorcière de cette époque aussi que j'aime beaucoup et c'est Stevie Nicks. Et c'est la chanteuse du groupe Fleetwood Mac et on l'appelle souvent la sorcière du rock. Voilà, c'était un petit bout de Rhiannon de Fleetwood Mac, donc chanté par Stevie Nicks, accompagné de Fleetwood Mac, tout le groupe. Et donc, on l'appelle la sorcière du rock parce que depuis le début de sa carrière, une rumeur circule selon laquelle c'est une sorcière et qu'elle pratiquerait la Wicca. Alors, elle a admis qu'elle était fascinée par le mythique, le gothique, mais elle nie toute activité religieuse solitaire, y compris dans la sorcellerie. Après, c'est vrai qu'elle a un look mystique. Elle a toujours des jupes en chiffon, des châles. Elle met des foulards en soie. Elle a des longs cheveux blonds. Elle a vraiment tout de la sorcière du XXe siècle, un peu 70s, quoi. Et elle inspire encore aujourd'hui beaucoup d'aficionados de l'esthétique witchy. Et là, les gens voudraient même qu'elle ait eu l'inspiration pour la chanson qu'on vient d'entendre, Rhiannon, en rêve, sans savoir qu'il s'agissait d'une reine de la mythologie celte galloise. Donc réalité ou mythe, peu importe, la sorcière a encore frappé. Elle est entrée dans la légende et pas dans n'importe laquelle, puisque c'est la légende du rock. J'arrive à la fin de mon voyage musical dans la sorcellerie. Je voudrais conclure avec un monument de la chanson française qui a elle aussi sa sorcière fétiche. Est-ce que vous avez une idée comme ça, Anthony ?
Sorcière fétiche, monument, Martin, aidez-moi. J'ai pas du tout,
j'ai
là.
Pas du tout.
Ah
plus.
Ouais, de toute façon, vous nous avez égarés partout.
Ah ouais, non, puis alors vous n'êtes pas prêts.
Ouais, ouais.
Bah écoutez, je vais pas vous donner d'indice, je vais juste vous lancer le son et puis voilà. Voilà, la salsa du démon, bien ouais. Sûr, par le grand orchestre du Splendide, qui nous donnait donc cette vision très française de la sorcière, bien dans le cliché de la sorcière dégueu qui fait de la soupe au pipi. Et moi, ça me fait mourir de rire depuis que je suis enfant. Voilà, je trouvais que c'était la bonne façon de conclure sur le sujet.
Merci beaucoup, Hélène.
Ah, de c'était rien, avec grand plaisir.
Super. J'espère qu'il y aura possiblement une partie 2.
Oh, il y en aura peut-être même 10. On ouais, alors, à ce rythme-là, on peut y aller.
Une autre. Je pensais par exemple à la présence, entre autres, quand la musique pop est devenue immensément populaire, il y avait vraiment beaucoup de personnes qui étaient vraiment coincées. Il y a eu, on prêtait des pouvoirs, entre autres, à des morceaux des Beatles.
On peut explorer toute cette partie-là, des morceaux passés à l'envers. Il y a toute la naissance du heavy metal qui a été liée au satanisme et à la sorcellerie. Il y a cette légende du rock et du blues du guitarman qui a vendu son âme au diable pour avoir le succès. Ouais. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont liées comme ça entre magie et musique. Et le sujet est tellement vaste, mais voilà, comme je vous disais, j'ai été obligée de me restreindre. Mais j'ai encore des choses à raconter. Il y a des tarots rock, il y a des tarots grunge, il y a plein de choses. J'ai pas fini d'en parler.
Merci beaucoup, Hélène.
Avec grand plaisir.
Vous nous rappelez les références du bouquin quand même,
le bouquin que j'ai cité tout à fait, c'est La Wicca, manuel de magie blanche, rituel, recette, herbe et invocation de Scott Cunningham. Moi, je l'ai j'ai lu en poche, mais il existe en plein d'autres formats.
Et de tête, si vous vouliez nous conseiller un album à aller écouter d'une artiste ou d'un artiste d'ailleurs.
Ah là là, comme ça, je saurais pas.
Même parmi ceux que vous avez diffusés.
Je saurais pas vous dire. Je vous invite à chercher sur Spotify une playlist qui s'appelle Witchy Vibes, qui est vraiment pas mal et qui va piocher dans de l'ancien, du récent, du moderne pour mettre dans l'ambiance sorcière.
Witchy
Vibes.
Vibes, voilà. Donc sur une Spotify. Playlist thématique sur Spotify. Merci beaucoup. C'est toujours le Balistique Café sur Radio Balistique et je vous propose, on va rester dans la musique. Martin, vous aviez une réaction, parce que nous on papote, mais sur la sorcellerie, sur la musique, tout ça, suite à tous ces extraits.
Non, moi j'avais surtout un artiste en tête que j'espérais voir. Non, pas forcément en fait. Ah. C'était Marilyn Manson aussi qui a beaucoup de.
Ah, mais oui.
Alors évidemment, on en reparlera, je suis fâchée avec Marilyn Manson, mais parce que j'ai été très grande fan de lui pendant très longtemps, mais c'est compliqué. On en reparlera. Mais oui, évidemment, lui aussi a joué avec ça.
Lors d'un précédent Instant X, la personnalité problématique de Marilyn Manson a été abordée.
Oui, il a quand même de sacrés.
Ah, bah là, c'est plus des questions. C'est une batterie. Hein. Voilà.
I'm going to learn how to conjure him. Bind him, banish him. That's my only agenda.
Vous venez d'écouter l'Instant X, la chronique qui parle sorcellerie, féminisme et pop culture. Retrouvez-la en direct sur Radio Balistique, 103 FM dans la région de Châteauroux, dans le Balistique Café du mercredi une fois par mois et à tout moment sur Spotify, Google Podcast ou dans votre appli préférée. Merci de votre écoute et à la prochaine.